Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la polémique autour de la date des élections législatives en Guinée. Avec un an de retard, ces élections se tiendront-elles avant la fin de l'année? C'est en tout cas le souhait du président Alpha Condé. Le chef de la commission électorale a proposé une date, celle du 28 décembre. Seulement voilà, l'opposition juge ce calendrier irréaliste. Il est impossible d'enrôler, d'enregistrer plus de 6 millions d'électeurs dans ce délai si court. Alors, pourquoi un tel engouement et un tel empressement? Eh bien, ce matin, sur RFI, vous l'avez certainement entendu, Seloud Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, a dénoncé une manœuvre du président de la République pour s'approprier une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale afin de modifier la Constitution et de s'octroyer un nouveau mandat. La polémique ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous appeler. Merci de votre fidélité. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous envoyer vos commentaires et vos réflexions sur la page Facebook de l'émission. Certains trouvent déplorable l'attitude de l'opposition. D'autres dénoncent cette volonté d'aller à tout prix vers des élections législatives avant la fin de cette année. On vous donnera évidemment la parole. Ce sera dans une demi-heure sur RFI. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Et pour commencer, des questions sur l'élection présidentielle en Tunisie après la publication hier des résultats officiels du premier tour. Bonjour Sylvestre.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les Togolais.
Vous êtes à Blita, au Togo, justement. Quelles sont vos questions?
Oui, mes questions. Je voulais savoir, selon les résultats du premier tour des élections présidentielles en Tunisie, Kaïs Saïd et Nabil Karoui sont arrivés en tête.
Oui.
À ce sujet, j'ai deux questions. La première, comment expliquer le succès de Kaïs Saïd alors qu'il n'a pas de parti politique?
Ah, bonne question que vous posez, c'est effectivement la surprise de ce scrutin, ce juriste sans parti politique qui arrive en tête du premier tour avec 18,4% des voix. Bonjour Sébastien Duhamel.
Et bonjour Juan, bonjour Sylvestre, bonjour,
journaliste
bonjour à tous.
Au service Afrique de RFI, disons-le clairement, peu d'observateurs avaient pris au sérieux sa candidature. Oui. Comment expliquer ce succès?
Eh bien, c'est justement ce qui a fait sa force d'être un indépendant, à en croire les observateurs quasi unanimes. Une campagne modeste, mais au long cours, sur le terrain. Kaïs Saïd est aussi connu d'une bonne partie des Tunisiens parce que c'est un habitué des plateaux de la télévision nationale. Mais c'est pour ses lumières d'universitaire qu'il était régulièrement invité là-bas. C'est un constitutionnaliste, issu de la société civile. Donc il est apparu comme déconnecté des intérêts partisans, des calculs politiques. Il a su finalement toucher tous ceux qui étaient un peu désabusés, agacés par les anciennes pratiques. Lui, il promet justement de rompre avec tout ça, avec la corruption. Surtout, il promet de réformer les institutions, de réviser la Constitution pour rendre le pouvoir plus local, pour le rapprocher du peuple. Et en voir les résultats, ouais. 18,4%, vous l'avez dit, Juan, ça collait aux aspirations de la majorité des Tunisiens qui se sont déplacés dimanche pour voter. Rappelons quand même, un Tunisien sur deux, 49%, qui a été voté dimanche.
Forte abstention. Ouais. Rendre le pouvoir au peuple, plus de démocratie locale, voilà donc son cheval de bataille. Oui. Les analystes voient donc un vote sanction contre la classe politique traditionnelle.
Oui, et pour comprendre ça, il suffit de regarder ceux qui étaient jusque-là les poids lourds. Abdel Fattah Mourou, le candidat d'Ennahda, le parti majoritaire à l'Assemblée, il est arrivé troisième, 12%. Derrière lui, le ministre de la Défense, Abdelkrim Sbidi, le candidat de Nida Tounes, le parti du président défunt, Béjik Haïdessepsi, 10%. Et puis il y a le premier ministre, Youssef Chahed, il arrive cinquième, 7% des voix. Oui, ça semble clair. Kaïs Saïd, il a été porté par une certaine vague de dégagisme, une vague qu'on a pu constater dans d'autres pays, d'ailleurs, ces dernières années, Juan. Et ce qui est certain, c'est donc que... face à lui, il y avait un autre homme, Nabil Karoui. Lui, il se présentait comme un moderniste, mais c'est sur cette même vague qu'il a surfé. D'aucuns le qualifient de populiste, d'ailleurs Nabil Karoui. Et puis son arrestation, le 23 août dernier, elle a renforcé justement cette image anti-système. Et elle a renforcé aussi, du coup, sa cote de popularité.
Oui, Nabil Karoui en prison depuis près d'un mois pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Alors justement, vous parliez de Nabil Karoui. Sylvestre, vous avez une question sur cette personnalité?
Ah oui, j'ai une question, une seconde. Actuellement en prison pour évasion fiscale, Nabil Karoui est arrivé en seconde position. J'aimerais savoir tout simplement que se passera-t-il s'il est élu président de la République au second tour.
Ah, question à un million de dollars peut-être, Sébastien.
Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est une colle et pour tout le monde, les principaux intéressés eux-mêmes, bah, tout simplement parce que la situation, elle serait inédite. Mais dans cette hypothèse, c'est vrai qu'il y aurait un vrai vide juridique. C'est ce que me disait hier Yad Ben Achour, c'est un éminent constitutionnaliste tunisien. Pour l'anecdote, Kayes Sayed a d'ailleurs été l'un de ses élèves. Mais il y aurait un vrai vide, c'est certain. Ni le code électoral, ni la constitution ne prévoient le cas d'un président élu, mais détenu. Alors, il y a bien quand même l'article 87 de la Constitution, et si on le lit, cet article, on voit que le président de la République bénéficie de l'immunité durant son mandat.
Immunité durant le mandat présidentiel, donc.
Oui, durant le mandat, mais théoriquement, pour que le mandat débute, Juan, ben, il faut aller prêter serment devant les députés, devant l'Assemblée des représentants du peuple. Or, là, pour Nabil Karoui, c'est plutôt vers le code électoral, le code pénal qu'il faut se tourner. Et ce sera un juge qui va dire s'il y a libération ou non. Personne d'autre. C'est un juge qui doit se prononcer là-dessus. Et je rappelle que les avocats de Nabil Karoui avaient déposé des recours. Ils ont été rejetés avant le premier tour. Hier, ils ont dit qu'ils en déposeraient de nouveau. À voir si les magistrats changent d'avis. En tout cas, de toute façon, c'est pas l'ISI qui va trancher. Elle a été claire. Si Nabil Karoui venait à être élu, c'est l'Assemblée, justement, et les autorités judiciaires qui devront trancher. Ce sera elles qui devront trancher ce que Yad Ben Achour appelle un nœud gordien, Juan.
Effectivement. En tout cas, les observateurs internationaux demandent qu'ils puissent faire campagne en vue de second tour. On verra quelle sera la décision de la justice. Merci beaucoup, Sébastien Duhamel.
Merci
Sylvestre, on a répondu à vos questions.
Oui, parfaitement, merci beaucoup.
Allez, bonne journée à Blita, au Togo. Il est 10h17 à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. Bonjour Claude.
Bonjour, Gomez, bonjour à tous les auditeurs d'Affaires sur l'actualité.
Vous êtes à Kisangani et vous avez des questions sur les déboires judiciaires de l'ancien ministre de la Santé en République démocratique du Congo.
Tout à fait. Deux mois après sa démission au poste de ministre de la Santé congolais, le docteur Ori Lunga est soupçonné d'avoir détourné plus de 4 millions de dollars qui avaient été alloués à la lutte contre Ebola. Quels éléments reposent ces accusations? Y a-t-il un lien avec sa démission?
Ah, sur quels éléments reposent ces accusations? D'ailleurs, hier, Oli Ilunga a été inculpé pour détournement de fonds présumés alloués à la lutte contre l'épidémie Ebola qui sévit dans l'est de la RDC depuis maintenant un peu plus d'un an. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Juan, bonjour Claude et bonjour à tous les auditeurs.
Correspondant de RFI en République démocratique du Congo, quels sont les éléments qui permettent d'accuser l'ancien ministre de la Santé?
Il lui est reproché par la police judiciaire le détournement présumé d'une somme d'environ 4,3 millions de dollars américains mis à la disposition du ministère de la Santé par le Trésor public pour la lutte contre la maladie virus Ebola. Selon ses avocats, seuls 2,4 millions de dollars américains étaient mis à la disposition du cabinet du ministre en 11 mois par le biais du comptable public. Et Oli Ilunga réaffirme donc fermement son innocence dans cette affaire et promet de défendre avec la plus extrême énergie pour son honneur. Il faut également dire que toujours, selon ses avocats, près de 2 millions de dollars américains de cet argent, donc le total de 4,3 millions, dont parle l'accusation, ont été décaissés un mois après la démission du docteur Oli Ilunga, de manière qu'il ne peut nullement en répondre.
Ouais. Y a-t-il une instance qui contrôle justement toutes les dépenses allouées à la lutte contre Ebola?
Déjà, il faut dire qu'Oli Ilunga a déclaré qu'il n'avait pas géré les fonds de bailleurs internationaux et pour l'argent mis à la disposition par le gouvernement congolais, l'inspection générale de finances, l'IGF, auditait régulièrement les comptes gérés par le ministère de la Santé, disent les avocats d'Oli Ilunga.
À suivre donc. Merci beaucoup, Patient Ligaudi, d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Claude de Kisangani. Avec nous en studio, l'un des journalistes du service politique de RFI, Julien Chavanne. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bienvenue. On a des questions concernant la mise en examen du président de l'Assemblée nationale française. Des questions qui nous sont posées par Tanguy à Libreville, au Gabon. Bonjour Tanguy.
Bonjour Juan et bonjour à tous les fidèles de Radio France Internationale.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Richard Ferrand a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Malgré cela, il a déclaré être déterminé à poursuivre sa mission et il bénéficie de la confiance de l'exécutif. Cette mise en examen peut-être perturber le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cette affaire fragilise-t-elle le parti présidentiel?
Ah, effectivement, pas question pour le Premier ministre ni pour l'Élysée d'appeler à la démission du quatrième personnage de l'État. Avant d'aller un peu plus loin, Julien Chavanne, rappelez-nous déjà ce que la justice reproche à Richard Ferrand.
Eh bien, l'affaire éclate au début de ce quinquennat, mais les faits, eux, datent de 2011. À cette époque-là, Richard Ferrand dirige les mutuelles de Bretagne. Il cherche à louer des locaux pour installer un centre de soins à Brest. Et parmi les offres qu'il y a sur la table, il y a celle de Sandrine Doucan, qui n'est autre que sa compagne. C'est cette offre que Richard Ferrand choisit. Le parquet de Brest ouvre une enquête préliminaire lors de la révélation de cette affaire, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et un mois à peine après son arrivée au gouvernement, Richard Ferrand, lui, est obligé de démissionner. Finalement, quelques mois plus tard, en octobre, le parquet de Brest classe cette affaire.
Alors pourquoi l'affaire est-elle donc relancée aujourd'hui ?
Eh bien parce que l'association de lutte contre la corruption Anticor a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Le parquet national financier ouvre alors une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt. Et donc, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 septembre, le président de l'Assemblée est mis en examen après 15 heures d'audition à Lille.
Alors, il a démissionné la première fois, et là, il ne démissionne pas.
Eh oui,
pourquoi ?
Parce que, pour deux raisons avancées par l'exécutif. D'abord, mise en examen, ça ne veut pas dire coupable, hein, il reste présumé innocent. Et puis, de deux, si un ministre du gouvernement actuel doit démissionner s'il est mis en examen, ça c'est la règle qui a été fixée par Edouard Philippe et Emmanuel Macron, eh bien ce n'est pas le cas pour le président de l'Assemblée nationale. Explique Matignon et l'Élysée pour le respect des institutions, parce que le président de l'Assemblée nationale, il n'est pas choisi par Emmanuel Macron, par Edouard Philippe, il est choisi par les députés qui ont voté pour lui. Il a donc une légitimité que l'Élysée et Matignon ne peuvent pas remettre en cause. Et donc, il faut dire aussi que Richard Ferrand, c'est un cas à part dans la Macronie. C'est un fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Les deux hommes sont très proches et clairement, le chef de l'État n'avait aucune raison de le laisser tomber. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé Richard Ferrand la nuit où il a été mis en examen. L'Élysée l'a fait savoir à la presse. Et ce lundi, devant le gouvernement et les parlementaires, le président français a eu quelques mots en début de son discours pour son ami. « Cher Richard, on est tout particulièrement content de te retrouver en ce moment. Le soutien est donc clair et appuyé.
Ouais, » ouais. Tanguy nous demandait si cette affaire ne fragilise pas tout de même le parti présidentiel. Et est-ce que ça ne fragilise pas aussi le fonctionnement même de l'Assemblée nationale ?
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la République irréprochable en prend un coup. Le Nouveau Monde est finalement renvoyé encore une fois à des pratiques suspectes hein, de l'Ancien Monde. Plusieurs députés En Marche ne cachent pas en coulisses leur inquiétude sur les retombées en termes d'image. Ça fait beaucoup parler les marcheurs, me confiait un élu. Mais publiquement, les députés de la majorité, les ministres font bloc. Ils défendent un homme très respecté. L'opposition à droite et à gauche a en majorité épargné Richard Ferrand. Les appels à la démission ont été rares. Les séances dans l'hémicycle se sont déroulées sans allusion aux ennuis judiciaires du président de l'Assemblée. En attendant la fin de l'enquête, bien sûr, Richard Ferrand reste sous la menace d'une condamnation qui rendrait évidemment son maintien au perchoir quasi impossible.
A-t-on répondu à vos questions, Tanguy ?
Merci, tout est parfait.
Merci à Julien Chavanne, donc, du service politique de RFI. Bonne journée à tous les deux. 10h24 à Paris, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, notre débat consacré à cette polémique autour de la date des élections législatives en Guinée. Vous avez pu entendre ce matin le chef de file de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, qui estime que la date proposée, celle du 28 décembre, est une date irréaliste. Il a expliqué longuement pourquoi il s'opposait à cette date. On aura évidemment l'occasion d'en débattre tous ensemble. Bonjour François Nicoulot.
Bonjour.
Ancien ambassadeur de France à Téhéran, spécialiste de l'Iran. Je me fais le porte-parole de Moussa, qui est en région parisienne, qu'on n'arrive plus à voir. Moussa qui revient sur les attaques de drones en Arabie Saoudite. Donald Trump a immédiatement accusé l'Iran. Il s'est même dit prêt à punir l'Iran. Et Moussa nous dit, mais quelles sont les preuves dont disposent les Américains pour tenir de telles accusations? Et peut-on s'attendre à une intervention américaine dans la région? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi les Américains accusent l'Iran, d'autant que cette attaque, elle a été revendiquée par les rebelles houthis du Yémen.
Oui, c'est vrai. Pour le moment, d'ailleurs, les Américains, ce qu'on entend de leur bouche, ce sont des assertions. Il n'y a pas encore de preuves. Mais les preuves, on les aura, un jour ou l'autre. Ça viendra assez vite, parce que il est certain que aériennes, enfin les engins qui ont été utilisés, on ne sait pas très bien d'ailleurs encore. Est-ce que ce sont des drones, est-ce que ce sont des missiles de croisière, un mélange des deux. Mais enfin, ces engins ont laissé des traces. Hein. Certains sont tombés, il y a des morceaux qui restent dans le désert. Donc on saura assez vite, en tous les cas, d'où viennent les engins. Ce qui est le plus délicat, c'est effectivement l'orientation. Les Américains disent les réservoirs du grand site donc pétrolier ont été frappés dans telle direction, donc ça vient d'Iran. Ça vient d'Iran. Bon, on en saura plus dans quelques jours. Je crois qu'il faut encore être un petit peu patient.
Mais à vous entendre tout de même, François Nicolau, j'ai comme l'impression que vous êtes convaincu, vous aussi, que ces attaques ont été lancées depuis l'Iran.
Il y a encore une autre hypothèse qui n'a pas été creusée, enfin qui pourrait apparaître, même si c'est peut-être pas la plus probable, c'est qu'en fait elle serait venue de l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Parce que les Houthis, quand ils ont revendiqué l'attaque, ont eu une phrase en disant grâce au soutien d'amis de l'intérieur.
Effectivement, bon. C'est vrai, oui.
Alors, ben, tout le monde l'a un petit peu oublié, cette phrase. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Quel signal donne-t-elle? Bon, mais encore là, je veux dire, on sera assez vite fixé. Hein. Ouais. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter.
En tout cas.
En plus, il y a des experts internationaux, il y a même des Français qui sont partis pour l'Arabie Saoudite pour participer donc aux évaluations et aux recherches.
Donc, on aura très rapidement ces fameuses preuves de l'attaque provenant d'Iran. Il y a une guerre des mots entre Washington et Téhéran depuis samedi, les tweets de Donald Trump qui laissent planer la menace d'une riposte militaire, même si ensuite, il a été moins catégorique. Pensez-vous que le président américain peut déclencher une guerre ?
Il n'a pas envie, hein, ça c'est très clair. Il n'a pas envie du tout, tout le monde le dit, c'est parce qu'il va rentrer bientôt en campagne électorale et que ça serait désastreux pour sa campagne. Une guerre, ça signifie le cours du pétrole qui monte, ça signifie prendre à rebrousse-poil l'opinion américaine qui ne veut pas de nouvelles guerres dans la région. Donc Trump, au fond, ce qu'il aimerait, ce soit que les Saoudiens, finalement, prennent la responsabilité de riposter à l'Iran. Mais les Saoudiens non plus ne veulent pas une guerre, parce qu'eux aussi, ça va leur compliquer énormément la vie. Le grand projet de modernisation de l'Arabie Saoudite, lancé par le prince héritier, tout ça va être extrêmement fragilisé si les Saoudiens entrent dans une guerre, d'autant plus que cette guerre, ils ne sont pas sûrs de la gagner. Hein. Les Iraniens ont déjà fait savoir qu'ils ne faibliraient pas et qu'ils riposteraient sur toutes les bases de la région, sur l'Arabie Saoudite et même sur les Américains, s'ils étaient attaqués.
Vous dites que Donald Trump ne veut absolument pas se lancer dans une nouvelle guerre. On se souvient qu'en juin dernier, l'Iran avait abattu un drone américain et Donald Trump avait renoncé à attaquer l'Iran 10 minutes avant la frappe.
Oui, en effet, c'est tout à fait symptomatique de sa position. Enfin, Trump, c'est un homme de deal, hein, et au fond, ce qu'il voudrait, c'est conclure des accords, évidemment, qui le mettent en valeur, hein, ça va sans dire, mais entrer dans une nouvelle guerre, il a toujours dit, d'ailleurs, dans sa campagne électorale, qu'il ne voulait pas entrer dans de nouvelles guerres, qu'il n'entraînerait pas l'Amérique dans de nouvelles guerres, et donc, là, il faut qu'il fasse extrêmement attention. Donc, Américains et Saoudiens sont en fait très, très embarrassés, ils sont placés devant leurs contradictions, hein, dans cette affaire, parce qu'il faut bien voir que du côté américain, au fond, tout ceci, on n'en serait pas là, hein, si les Américains n'étaient pas sortis de l'accord nucléaire il y a maintenant, en 2018. Et du côté saoudien, on n'en serait pas là s'ils ne conduisaient pas une guerre au Yémen, une guerre très dure, hein, une guerre qui quand même touche énormément de civils, des milliers de femmes.
Bien sûr, la plus grave crise humanitaire en ce moment selon les Nations Unies. Merci François Nicolau, ancien ambassadeur de France à Téhéran, spécialiste de l'Iran. J'espère que Moussa a pu malgré tout écouter votre analyse. Restez avec nous, on marque une pause, on retrouve tout de suite la dernière édition d'Afrique Matin.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.